du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Insanis Pauli, tu es fou, Paul. Jeffrey Maritoma, cette interjection du tribun Festus à Saint Paul, qui était en train d'expliquer au roi Agrippa que Jésus est le Christ et qu'il devait souffrir. Cette interjection, on pourrait vous l'appliquer. Vous êtes fou. Fou de vouloir vous lier par des vœux qui vous condamnent à une vie austère et pénitente, une vie de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, au moment où vous pourriez vous lancer dans une carrière pleine de promesses, fonder une famille, être libre, et puis profiter de la vie. En réalité, heureuse et sainte folie. Car ce qui est folie en Dieu, dit saint Paul, est plus sage que les hommes. Ce qui est faiblesse en Dieu est plus fort que les hommes. Dieu a choisi les choses folles selon le monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles selon le monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles et méprisables selon le monde, celles qui ne sont rien, pour détruire celles qui sont. Oui, la vie à laquelle Dieu vous a appelé et qu'aujourd'hui vous embrassez définitivement par la profession solennelle, c'est une folie aux yeux du monde. C'est la folie de la croix. Mais c'est aussi le trésor caché de l'Évangile, la perle précieuse pour laquelle celui qui l'a trouvé n'hésite pas à vendre tout ce qu'il possède, universa quae habet, omnia quae habuit, dit l'Évangile. Et vous noterez que la fête d'aujourd'hui, les apparitions de Lourdes, vous offre une belle illustration de cette vérité, et puis un remarquable exemple en la personne de Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, elle aussi, a été traitée de folle. Le commissaire Jacomet s'est chargé de le lui dire ouvertement pour la dissuader d'aller à la grotte. Les historiens de Lourdes ont rapporté ce petit dialogue quand le commissaire interrogeait la voyante. Il lui disait « Écoute, Bernadette, tout le monde rit de toi. On dit que tu es folle. Dans ton intérêt, il ne faut plus retourner dans cette grotte. » Ça n'était pas la vie de la Sainte Vierge, puisque la Sainte Vierge avait choisi cette pauvre bergère illettrée pour être sa messagère. C'est la Sainte Vierge qui l'avait préparée, éclairée, formée, pour qu'elle soit l'instrument d'une mission extraordinaire. Et c'est la Sainte Vierge ensuite qui en a fait une religieuse modèle, simple, humble, généreuse, toute donnée à Dieu, l'une des plus grandes saintes de nos temps modernes. Envoyez la Sainte Vierge, et le commissaire Jacomet parlait par le même langage. Et d'ailleurs, traiter Bernadette de folle, au fond, c'était traiter la Vierge Marie de folle, car c'est elle qui a attiré Bernadette dans la grotte, avec une force irrésistible. Bernadette disait elle-même qu'elle ne pouvait pas, elle était comme poussée, elle ne pouvait pas résister. Et puis en même temps, la Sainte Vierge l'a conviée avec une délicatesse, une politesse incroyable. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Et puis c'est encore la Sainte Vierge qui lui a confié son message de prière et de pénitence à cette petite illettrée. Priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Pénitence, pénitence. Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Et puis c'est encore la Sainte Vierge qui a fait faire à Bernadette des actes déconcertants dont on a compris le sens que beaucoup plus tard, comme de se laver à une fontaine qui n'existait pas encore, et puis de manger de l'herbe. On pourrait ajouter que la Vierge Marie a entraîné dans cette sainte folie plusieurs des premiers dévots de Lourdes, comme cette croisine du cou, qui alla plonger son petit Justin de 2 ans, paralytique, mourant, dans la fontaine glacée de la grotte, et qui l'y maintint inanimé pendant plus d'un quart d'heure. Autour d'elle, de toutes parts, les gens criaient « Cette femme est folle !» Elle va tuer son enfant. Mais elle, pleine de foi, courait à la Vierge, comme elle disait. Et elle obtint le miracle. L'enfant guérit. et il est l'un des tout premiers d'une innombrable série qui ne fait plus s'arrêter. Alors vous le voyez, les voies de Dieu ne sont pas nos voies humaines. Ce qui est folie pour nous est sagesse pour Dieu. Et ce qui est sagesse pour nous est souvent folie vu du point de vue de Dieu. C'est toujours saint Paul qui parle. Où est le sage? Où est le savant? Où est le raisonneur de ce siècle? Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, soit Juifs, soit Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et en effet, cette voie de la vie religieuse, la voie des conseils évangéliques, comme on dit, les conseils de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, les trois vœux, cette vie que vous avez embrassée, que vous allez définitivement embrasser aujourd'hui, c'est une voie très sage, très parfaite. Non pas que la perfection à laquelle elle conduit soit différente de la perfection à laquelle tout baptisé est appelé. Tous nous sommes appelés à la même perfection, la perfection de la charité, que Dieu a résumée dans les deux premiers commandements. Nous avons entendu ça dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça que le bon Dieu nous demande à tous, c'est un précepte. Donc la différence n'est pas au niveau du but poursuivi, c'est le même pour tous. Et ce but relève encore une fois du précepte, du commandement. La différence réside uniquement dans le choix des moyens pour atteindre ce but. Les moyens choisis par celui qui est dans l'état religieux sont plus directement ordonnés à la perfection. Et la raison qu'en donne saint Thomas est que les conseils évangéliques, c'est-à-dire les trois vœux, sont ordonnés à éloigner ce qui entraverait l'acte de la charité tout en n'étant pas contraire à la charité elle-même. En d'autres termes, ça veut dire que ces vœux visent des biens légitimes, comme le sont la propriété, c'est légitime d'être propriétaire, ou encore le soin des affaires temporelles, ou le mariage, ou le libre arbitre. Cette liberté que le bon Dieu nous a donnée, tout ça est tout à fait légitime. Ces biens de soi ne sont pas contraires à la charité, ils n'empêchent pas la sainteté. Mais la possession ou la préoccupation excessive de ces biens peuvent devenir un obstacle à l'élan de la charité, en créant un attachement désordonné dans l'âme. Alors pour éviter cet inconvénient, sur un appel de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on décide soi-même, sur un appel de Dieu et moyennant sa grâce, le religieux se détache volontairement de ses biens légitimes et de cette manière, son esprit se porte plus librement, c'est toujours saint Thomas qui parle, à la contemplation, à l'amour de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté. Cette phrase est magnifique. « Ut sic liberius mens tendat in Deum contemplando, amando » et eius voluntatem implendo. L'âme qui voue à Dieu les trois vœux est plus libre pour contempler, pour aimer Dieu et pour accomplir sa volonté. Ça résume tout admirablement. La voie des conseils est donc bien une voie excellente qui permet d'atteindre la perfection plus facilement, plus rapidement et plus sûrement. Et par le fait même, elle rapproche celui qui s'y engage du mode de vie des élus du ciel. On peut dire que la vie religieuse, c'est comme un intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie auquel nous sommes tous appelés, la vie du ciel. D'abord parce qu'elle ramène toute la vie à l'unité. Saint Thomas dit encore, le cœur se porte avec d'autant plus d'intensité vers quelque chose qu'il s'écarte davantage de ce qui le disperse. Les vœux font l'unité dans nos vies. C'est ce que Jésus dit à Sainte Marie-Madeleine. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part. En faisant des vœux, vous avez choisi la meilleure part. Alors que Marthe, au contraire, s'agite en beaucoup de choses, des choses légitimes. Ce que faisait Sainte Marthe était tout à fait bon. Mais le religieux, lui, vit pour Dieu seul. Il n'a pas d'autres préoccupations.
Alors il est plus libre. Et puis cette vie rapproche de la vie du ciel parce que par les vœux, nous sommes séparés de l'attache au bien terrestre. Et là encore, c'est saint Thomas qui dit les choses. L'esprit se porte d'autant plus parfaitement à aimer Dieu qu'il s'écarte davantage de l'affection des choses temporelles. Le religieux, parce qu'il a renoncé à tout, parce qu'il s'est offert lui-même à Dieu en holocauste, est libre d'aimer Dieu plus parfaitement, comme le sont les élus du ciel, qui sont dégagés des sollicitudes et des attaches terrestres. C'est ce qu'exprime la très belle prière de l'offertoire de cette messe que le prêtre va dire dans quelques instants. Seigneur mon Dieu, dans la simplicité de mon cœur, je vous ai fait avec joie l'offrande de tout. Conservez-moi dans cette volonté. Et c'est aussi ce que notre Seigneur dit dans l'Évangile. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. La vie religieuse, en détachant du monde créé et en obligeant à croître dans la charité, contribue puissamment à fixer la volonté et le cœur là où sont les vraies joies, c'est-à-dire dans les biens du ciel. Mais pour comprendre et pour pratiquer comme il faut cette sagesse supérieure, cette sagesse surnaturelle, qui est une folie aux yeux des hommes, encore une fois, il faut être humble, petit, pauvre en esprit, comme l'était Bernadette, et comme le fut d'ailleurs en premier lieu la Sainte Vierge elle-même. C'est essentiel. C'est ce que confesse notre Seigneur dans l'Évangile. « Je vous bénis, ô Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux prudents, et de les avoir révélés aux tout-petits. » Il faut être tout-petit. Dans les matines de ce matin, nous avons entendu la sagesse proclamée « Si quis est parvulus, veniat ad me. » Si quelqu'un est tout-petit, qu'il vienne à moi. » Et puis rappelez-vous également l'office de l'octave de Noël. Nous avons lu au 8e répond de ce jour cette parole que la liturgie place sur les lèvres de la Sainte Vierge. Congratulamini mihi omnes qui diligitis dominum quia cum essem parvula placui altissimo. Réjouissez-vous avec moi, vous tous qui aimez le Seigneur, car j'ai plu au Très-Haut parce que j'étais toute petite. Il faut être tout petit pour que Dieu confère cette sagesse. Dans l'ordre de Saint-Dominique, la profession religieuse est adressée non seulement à Dieu, mais aussi à la Vierge Marie et à Saint Dominique. Promito obedientiam Deo et beate Mariae et beato Dominico. Et c'est bien juste, étant donné tout ce que la Sainte Vierge a fait pour l'ordre des prêcheurs. L'ordre des prêcheurs a été placé sous le patronage spécial de la bienheureuse Vierge Marie et a été comblé de ses perpétuels bienfaits. C'est ainsi que s'exprime l'oraison de la fête du patronage de la Sainte Vierge que nous fêtons le 22 décembre. Et en effet, n'est-ce pas la Vierge elle-même qui a donné aux frères l'habit de l'ordre? C'est l'histoire du bienheureux Réginald. N'est-ce pas la Vierge elle-même qui a révélé à Saint Dominique la dévotion du Saint Rosaire, qui est le bien propre, en quelque sorte, de l'ordre des prêcheurs? La Vierge a dit à Saint Dominique, « Va et prêche mon rosaire. » Et puis dans une vision célèbre montrant une multitude de frères et de sœurs de l'ordre abrités sous le manteau de la Vierge Marie, Jésus n'a-t-il pas déclaré à Saint Dominique « J'ai confié ton ordre à ma mère ». On pourrait multiplier les épisodes montrant la spéciale protection de la Vierge Marie sur les prêcheurs et aussi la grande dévotion qu'en retour ils ont toujours eue envers la mère de Dieu. Alors dans cet esprit, chers frères, vous avez souhaité que votre profession ait lieu un jour de fête de Notre-Dame. Bien, gardez ces dispositions, c'est important. Si saint Paul pouvait dire aux chrétiens de Galatie « Mes petits enfants que j'enfante sans cesse jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous », à plus forte raison, la Vierge Marie peut et veut engendrer le Christ dans ceux qui se donnent à elle dans la vie religieuse. Elle est mère de tous les chrétiens sans doute, mais plus spécialement mère des religieux, à un titre tout à fait spécial. Elle les enfante à la vie divine, elle les éduque, elle les forme à la sainteté, Elle les garde au milieu des épreuves et des tentations. Elle assure leur persévérance, leur fidélité jusqu'à la fin, en dépit des obstacles. Alors il faut rester sous son manteau, il faut la prier, il faut lui obéir. Pour terminer, chers frères, à la fin de l'épître de cette messe que nous venons de lire il y a quelques instants, nous avons entendu saint Paul dire ceci: « Oubliant ce qui est en arrière, tendu de tout mon être vers ce qui est en avant, je cours droit au but, vers la récompense à laquelle Dieu m'appelle là-haut dans le Christ Jésus. » Voilà votre programme. Il faut oublier tout ce qui est en arrière. Il faut se tendre tout son être vers ce qui est en avant, la sainteté à laquelle Dieu nous appelle. Jean Tolère a commenté ce propos dans un de ses sermons. Je vous lis ce qu'il dit pour terminer. Voici. Quand certaines personnes savent se recueillir 3 ou 4 fois le jour, ayant de nobles pensées, faisant leurs prières, et qu'elles s'en trouvent bien et en éprouvent de la consolation et de la douceur, il leur semble que tout est fait et qu'avec cela, elles sont en excellente posture. Non, mes enfants. En vérité, elles en sont encore immensément loin. Nous sommes créés pour des choses infiniment grandes. Et le Dieu fidèle qui nous y appelle et nous y invite nous en veut terriblement si nous nous contentons de choses si petites. Car il n'est pas d'autre don qu'il fasse avec tant de générosité et si volontiers que le don de lui-même, se donnant largement et abondamment de la manière la plus élevée, la plus noble. Aussi devrions-nous, à chaque renouvellement de ce don, nous étendre et nous épanouir vers Dieu même, avec tous nos sens et toutes nos facultés, avec tout notre cœur, avec une aspiration et un désir avides. Tendons complètement au divin abîme, car on ne peut jamais s'approcher si près et si haut de ce fond qu'il ne soit toujours possible d'arriver encore beaucoup plus près et beaucoup plus haut. Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons, d'aller toujours plus près et plus haut, de devenir toujours plus saint. C'est la grâce que nous demanderons avec vous à la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, que nous fêtons tout spécialement aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.